parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas le moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement prêt.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Ben voilà, ça y est, il est 19h passé de 2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios et c'est la rentrée du Canu Info, comme les élèves aujourd'hui, l'équipe du Canu Info a redoublé et est revenue pour une nouvelle saison, pour faire le tour de l'actualité comme d'habitude façon Radio Canu. Donc voilà, donc l'équipe du jeudi c'est Delphine.
Bonsoir.
Et Laurent, bonsoir. Dans ce Canu Info, un petit reportage, un gros reportage au milieu du Canu Info, la première partie en tout cas d'un reportage sur la friche RVI, comme ils disent, la friche autogérée RVI. C'est cette friche industrielle occupée par des artistes, différents collectifs et des militants avenue La Cassagne depuis de nombreuses années. Ils sont en passe d'être expulsés manu militari par le Grand Lion et son bras armé que représente la police. Donc voilà, donc on est allé faire un petit reportage, on a interviewé des gens, on en passe une vingtaine de minutes cette semaine, puis la semaine prochaine on fera la suite, la deuxième partie, pour essayer de comprendre qui sont ces gens qui sont là-bas et pourquoi ils font peur. Alors pas à nous naturellement, mais a priori au Grand Lyon, à la ville de Lyon, aux différentes municipalités, voire aux autochtones, parce qu'il y a aussi des autochtones du troisième qui ne les apprécient que très peu. Donc voilà, on fera ça tout à l'heure, puis on va commencer par l'actualité internationale. Je vais ouvrir un peu traditionnellement, puisque bon, quand même, il faut le dire, le Canu Info commence quasiment toujours par l'actualité israélo-palestinienne.
En tout cas celui du jeudi.
Celui du jeudi, oui. Alors, sauf s'il ne se passe rien. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc effectivement, alors vous avez entendu le retour du fils de la vengeance des pourparlers de paix. Alors on peut mettre le terme pseudo pour parler de paix, hein, parce que on est quand même conscient qu'il se passera pas grand chose, puisque le grand chef américain est a priori derrière ces négociations, mais n'est pas vraiment prêt à faire reculer Israël, puisqu'on sait que ce qui bloque c'est Israël. N'ayons pas peur des mots. Il faut savoir que ça chope toujours sur l'occupation. Si on veut séparer les deux pays, il faut rendre à la Palestine ce qu'est à la Palestine et laisser Israël de son côté. Sauf qu'Israël ne veut pas rendre les colonies, ne veut pas rendre tous les terres volées par la construction du mur ces dernières années, ne veut pas rendre les prisonniers, ne veut pas permettre à ceux qui ont été expulsés par Israël en 48 et après de revenir. Donc ça bloque et a priori, ces problèmes, tant qu'Israël ne changera pas d'avis, ne devraient pas être résolus. Donc on a assez peu d'espoir quand même sur ces pourparlers de paix, sauf si le grand Manitou américain faisait taper du poing sur la table et faisait plier Israël, mais a priori c'est pas dans l'esprit. Alors sur l'actualité israélo-palestinienne, il y a quand même des choses qui se sont passées ces derniers jours. Alors d'abord, quelque chose d'un peu plus lointain, mais on n'était pas là au mois d'août, donc on va en parler. C'est arrivé le 24 août, très exactement, un tribunal militaire israélien a reconnu coupable Abdallah Abu Rama de, je cite, « provocation, organisation d'une manifestation illégale et participation à cette manifestation illégale ». Il était aussi poursuivi pour deux chefs d'accusation qui étaient jet de pierre et détention d'armes. Là par contre, il n'a pas été, il a été reconnu innocent de ces deux faits. Alors qui c'est ce dangereux terroriste palestinien? Eh ben, c'est un gars du village de Bilin, très connu maintenant, pas loin duquel est construit ce fameux mur de l'apartheid, comme on l'appelle là-bas, et qui organise depuis 5 ans maintenant des manifestations régulières, hebdomadaires, hein, donc toutes les semaines, pour s'opposer à la construction de ce mur. Et il fait que ça, il organise des manifs. Eh ben, sauf que dans cette soi-disant, parce que je l'ai encore entendu aujourd'hui dans la bouche d'un propagandiste israélien, ça serait la seule démocratie, Israël, eh ben, ce gars, parce qu'il organise des manifs, il est arrêté et il est condamné par un tribunal militaire. Eh oui, donc c'est beau la démocratie façon Israël, ça ressemble quand même plus à l'Argentine de Pinochet que à l'idéal démocratique qu'on pourrait avoir dans d'autres pays. Bon, bref, voilà. Alors aujourd'hui, cette condamnation ne s'est pas accompagnée d'une peine. On sait qu'il est coupable de ces trois chefs d'inculpation, notamment de l'organisation de la manif, mais il n'y a pas la peine. La peine, elle devrait arriver d'ici quelques jours. Donc voilà, on rappelle quand même qu'il a été arrêté dans les territoires palestiniens, puisqu'effectivement il est palestinien, et que les territoires palestiniens relèvent effectivement de la législation militaire. Donc c'est pour ça que quand il parle de démocratie, il parle naturellement pas des territoires palestiniens, qui sont donc non pas une démocratie, même s'il y a une élection de Mahmoud Abbas par exemple, enfin de son prédécesseur, et puis de lui aussi, non, là c'est bien la force militaire digne d'une la pire dictature qui s'applique dans les territoires occupés. Pour preuve, tous les assassinats de l'armée israélienne n'entraînent jamais de condamnation. On n'a jamais vu, pour l'instant, un militaire israélien condamné pour l'assassinat d'un Palestinien. Et pourtant, il y a eu des milliers d'assassinats, des milliers de morts. On peut vous appeler ça comme vous voulez. Alors justement, dans ces pourparlers de paix, il y a ceux qui sont allés dans la provoque. Alors, pour le coup, dans les deux camps. Alors d'abord, on va parler des colons, puisqu'ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient continuer et relancer la construction de bâtiments dans les implantations cisjordaniennes, c'est-à-dire dans les colonies. On rappelle que ces implantations au niveau du droit international sont illégales. Donc c'est Naftali Bennett, le directeur du conseil des colons de Yesha, qui a expliqué qu'ils allaient à nouveau construire des logements pour accueillir encore plus de colons. Donc on sent bien que du côté israélien, la paix, elle est quand même mal partie. Il faut savoir qu'il menace même de renverser Benjamin Netanyahou, ce gars-là. Il faut dire quand même que dans la coalition qui est avec Netanyahou, il y a beaucoup de partis qui sont pro-colons. Donc c'est assez difficile pour Netanyahou, s'il veut rester chef du gouvernement israélien, et ben de pas écouter les colons, donc de faire la paix. Donc ça explique pourquoi ils ne font pas la paix. De l'autre côté, le Hamas a fait parler la poudre ces derniers jours. Alors il y a eu l'autre jour 4 colons, donc qui étaient sur le sol palestinien de manière illégale, hein, comme tous les colons. Ils ont été attaqués par le Hamas et ils sont morts. Et il y a eu hier encore une autre attaque du Hamas, avec cette fois 2 blessés. Alors ça se situe dans des coins qui sont très très tendus, notamment vers Hébron. Hébron, on rappelle, c'est une ville où il y a à peu près 100 000 Palestiniens. Il y a 500 intégristes juifs au milieu, entouré de plusieurs milliers de militaires pour les protéger, et qui sont hyper agressifs envers les Palestiniens. Donc ça explique un petit peu aussi pourquoi la situation est très tendue, pourquoi des fois on a ces morts et ces attaques. Donc voilà, donc le Hamas a lui aussi mis la pression en rappelant que c'est pour parler de paix, de toute façon ne pouvait pas aboutir, et malheureusement ils sont pas loin d'avoir raison. Donc voilà pour cette actualité israélo-palestinienne. On va rester dans la région et parler peut-être un peu du Liban.
Oui, c'est une position du Hezbollah qui risque de ne pas plaire effectivement à Israël, puisque le grand chef Hassan Nasrallah a déclaré lors d'un repas de rupture du jeûne musulman, fin août, qu'il était pour, enfin lui et le Hezbollah, la construction d'une centrale nucléaire au Liban. Alors évidemment, il faut savoir que le Liban a quelques soucis avec l'approvisionnement de l'électricité.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Les coupures pour tous ceux qui ont voyagé un petit peu au Liban, vous savez qu'il y a eu souvent des coupures d'électricité dans toutes les villes, à n'importe quelle heure. Il n'y a que Beyrouth finalement, ou dans certains quartiers, ça peut tenir, mais dans beaucoup c'est quand même extrêmement difficile. Et puis il y a un sous-équipement aussi, hein, parce qu'on vous rappelle, le Liban c'est aussi un certain nombre de bidonvilles qui sont autour des villes comme Beyrouth par exemple, et des quartiers assez pauvres dans lesquels le Hezbollah est extrêmement implanté, des quartiers qui lui sont entièrement dévoués. Et donc ils ont fait cette grande déclaration donc en août pour essayer un petit peu certainement de contrecarrer des manifestations, en particulier des jeunes au Liban qui ont eu lieu cet été. Alors il y en a eu une assez importante qui s'est déroulée à côté de Baalbek. Alors Baalbek, c'est une cité où vous avez beaucoup de touristes. C'est une ville où le Hezbollah a gagné les élections municipales, hein, les dernières. Et évidemment, avec le site archéologique, il y a des touristes du monde entier qui se croisent et qui parfois ne voient rien d'autre, absolument rien d'autre du Liban. Et donc, ils avaient menacé d'aller jusqu'à couper tout ce qui avait accès, justement, au site archéologique. Donc, et ben, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont pris les membres des forces de sécurité intérieure, hein, qui ont évidemment fait lever le barrage. Mais voilà, c'est ce genre de rassemblement et de manifestation qui se sont déroulés cet été. Il y a un énervement important, donc on peut penser que le Hezbollah, qui est un parti politique, qui gagne les élections, qui en perd aussi, ben essaye aussi de répondre, comme il sait le faire, à l'attente du petit peuple, comme ils savent aussi très bien utiliser. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils veulent faire, c'est eux qui le disent, comme l'ami iranien, c'est-à-dire avoir ses centrales. Donc c'est là où Israël va commencer certainement à s'inquiéter aussi.
Ouais, alors même si on peut quand même rappeler que le Liban, technologiquement, est à la ramasse complète au niveau nucléaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Et que pour l'approvisionnement en énergie électrique, aujourd'hui, c'est avant tout des groupes électrogènes qui fonctionnent et qui fournissent l'électricité en dégageant une énorme pollution, puisque ça fonctionne au pétrole, qu'il y aurait d'autres solutions, hein, puisque d'abord, ils ont du soleil en quantité totalement incroyable, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pluie dans la région, et qu'il y a la mer aussi, donc il y a plein de solutions alternatives. Donc voilà, c'est avant tout de la provoque de la part du Hezbollah.
Oui, surtout que Hassan Nasrallah, il voit loin, puisque dans sa déclaration, il dit donc qu'ils vont pouvoir effectivement assurer l'énergie de l'ensemble du Liban, mais aussi ça permettra de vendre à la Syrie, à Chypre, à la Turquie, à la Jordanie, à d'autres pays. Donc il croit aussi devenir un importateur d'énergie nucléaire. C'est très intéressant. Il faut savoir que le gouvernement libanais en juin a lancé un grand projet de réforme de quand même 6 milliards de dollars, hein, sur l'électricité, donc il y a une volonté de faire des choses, et en même temps, ce plan, beaucoup l'annoncent comme étant déjà foireux à la base et qu'il risque d'être très mal appliqué, que l'argent ne sera pas forcément au bon endroit, et que les batailles électorales risquent de prendre le pas sur tout le reste. Voilà.
On passe en Amérique du Sud avec un petit mot sur l'Argentine. Pour rappeler que la situation des animateurs radio est pas toujours facile, la nôtre l'est pour l'instant, donc profitons-en. C'est une station locale FM qui s'appelle Cerrillos, qui est dans la municipalité de San José de los Cerrillos, dans la province de Salta, qui a cessé d'émettre il y a une semaine, le 24 août. Il faut dire que des individus se sont introduits au domicile du directeur de la radio, Carlos Villanueva. Ils l'ont attaqué, ils ont incendié son garage et ils ont aussi détruit la station de radio qu'il dirigeait. Il faut dire que ce Carlos Villanueva, il avait un énorme défaut, c'est qu'il s'est beaucoup attaqué à la politique du maire de sa ville, qui a entraîné un passage devant la justice du maire. Donc lui, il accuse naturellement le maire de s'être vengé, d'avoir payé des gens pour l'attaquer. Le maire répond que c'est pas du tout ça, il est pas du tout impliqué dans l'attentat. Il a d'ailleurs condamné cet attentat. Voilà, on n'a pas la réponse pour l'instant de qui est le coupable. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas toujours facile de faire de la radio. Un petit mot sur le Brésil ?
Oui, toujours un petit peu aussi dans finalement le droit à s'exprimer. Vous avez peut-être entendu parler d'une manifestation qui a eu lieu à Rio le 22 août, qui avait réuni plus de 500 personnes, dont les humoristes du pays, pour se battre contre cette loi qui interdit l'humour politique pendant la campagne présidentielle. Alors il faut savoir que ce mouvement a porter ses fruits, hein, ça a donné du résultat, puisque finalement, alors au début, il y a eu une partie de l'article 45 de cette fameuse loi de 1997 qui a été suspendue, et puis le tribunal suprême fédéral a suspendu l'application de la loi carrément. Alors, il faut dire que c'était une loi qui pouvait quand même vous sanctionner de 45 000 euros, ce qui n'est pas rien, pour tout trucage, montage ou autre procédé audio ou vidéo qui, sous quelque forme que ce soit, dégrade ou ridiculise un candidat ou un parti. C'est-à-dire, par exemple, les guignols de l'info n'auraient pas le droit d'exister pendant une campagne électorale. C'était donc une censure quand même extrêmement importante, qui était surtout mise en avant par les caricaturistes de la presse nationale. Toute cette campagne, elle a enfin porté ses fruits. Et puis, il faut dire qu'au niveau international aussi, il y avait eu un petit peu quand même du bruit sur cette nouvelle... Enfin, c'était pas quelque chose qui était nouveau, mais sur le fait qu'elle soit de retour mise en avant par les politiques brésiliens. Donc du coup, au niveau international, ça avait quand même fait un petit peu du bruit. Donc c'est plutôt une réussite et on espère que les choses vont se maintenir.
Voilà, bah,
puisque ce n'est que suspendu, attention.
Voilà, donc, bah, le Brésil de Lula est loin de faire, faire référence aujourd'hui, même si beaucoup de gens de la gauche en Europe avaient salué son élection. Finalement, si on fait le bilan, je ne suis pas sûr que ce soit très positif. En tout cas, il y en a qui en ont pris plein la gueule, c'est les Indiens. Vraisemblablement, il n'est pas du côté des Indiens, il est plus du côté du capitalisme. Hein ? Alors, ceux qui croyaient un peu en la gauche de Lula, c'est raté, vous avez pris une claque, vous êtes fait avoir. On a une nouvelle preuve, là, puisqu'il vient signer donc un contrat autorisant la poursuite de la construction du barrage de Belo Monte sur le fleuve Xingu en Amazonie. Donc pour Lula, puisqu'il l'a déclaré, c'est une victoire pour le secteur énergétique. Donc le capitalisme brésilien doit être content. Par contre, les écolos et les Indiens, eh ben, ils le sont beaucoup moins. Alors pourquoi ? Eh ben, parce que ce barrage, ça va être le troisième plus gros barrage du monde. Ça va inonder toute une région. Et donc, il va y avoir des milliers d'Indiens qui vont perdre leur village, leur maison, leur culture, tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils ont construit depuis des générations et des générations, pour des raisons énergétiques qui ne sont pas forcément utiles, hein, parce qu'il y avait d'autres alternatives. On va expulser, on va détruire la vie de ces milliers d'Indiens. Donc voilà, il faut savoir qu'en plus, le projet a été très critiqué aussi au niveau de l'impact environnemental, notamment par Walter Coronado Antunes, qui est l'ancien secrétaire à l'environnement de l'État de Sao Paulo, qui a dit que c'était un des pires projets d'ingénierie dans l'histoire des barrages hydroélectriques au Brésil et peut-être du monde. Ah, peut-être pas aussi pire, si on peut utiliser ce terme non français, pour parler du barrage des Trois Gorges en Chine, qui est quand même une référence mondiale dans l'horreur des barrages hydrauliques. Mais ça a l'air d'être assez proche de tout ça. Alors il y a eu des manifestations, mais vraisemblablement le Brésil, le gouvernement brésilien, Lula, se foutent totalement des Indiens. Donc les Indiens ont répondu que ben, s'ils voulaient la guerre, ils auraient la guerre et que le fleuve, la rivière se transformerait en rivière de sang. C'est un peu triste de voir les choses en arriver là. Il faut dire quand même que le Brésil, au niveau écologique, c'est une catastrophe, hein, en grande partie grâce à Lula qui soutient ce capitalisme destructeur de l'environnement. Et ben, les Indiens ne sont pas non plus du côté des amis de Lula. Tant pis pour eux. Et alors, continuer sur le Brésil, parce que j'ai plusieurs infos. Il faut savoir aussi qu'il y a eu une manif globale de 233 peuples indiens du Brésil. Ils sont assez nombreux quand même, ces peuples indiens du Brésil, qui ont fait une manifestation au mois d'août pour se plaindre de la globalité de la politique de Lula, qui est une politique pro-projet industriel, pro-élevage, pro-industrie agroalimentaire, pro-plantation de soja, et ils expliquent à travers moult exemples que je ne vais pas citer ici, et ben que chaque fois les Indiens perdent leur bout de forêt, leur terre, leur habitat au profit du capitalisme agroalimentaire et de différents projets industriels. Donc il y a quand même un vrai problème de non-respect des populations autochtones par le gouvernement brésilien de Lula aujourd'hui. Alors c'est un enjeu important parce qu'il y a des élections, tu le disais tout à l'heure, c'est le 3 octobre, donc c'est important qu'ils mettent eux aussi la pression. Ils ont envoyé des lettres à tous les candidats pour leur demander de se positionner sur leur attitude vis-à-vis des Indiens.
Oui, alors répression encore, on part en Russie. Alors on sait que les antifascistes ont toujours eu quelques difficultés à militer, parce qu'en général ils en prennent plein la figure. Alors cet été, ça s'est encore durci, puisque vous savez, il y a eu cette lutte contre la construction d'une autoroute reliant Moscou à Saint-Pétersbourg, qui traversait une forêt... dans la banlieue de Moscou. Finalement, Dmitri Medvedev a annoncé qu'il suspendait le projet. Il n'empêche que les antifascistes, durant toute cette lutte, ont été la cible de la police, évidemment, de ce qu'on appelle le centre O, c'est-à-dire le centre de lutte contre l'extrémisme du ministère de l'Intérieur, c'est pas rien. Et puis évidemment, aussi, le FSB s'en est mêlé, hein, c'est les services secrets russes. Donc ça leur faisait du monde sur le dos. Il faut savoir que ces groupes de répression de forces de l'ordre sont intervenus dans les différents concerts qui ont eu lieu cet été en Russie. La plupart du temps, ils ont profité pour non seulement tabasser un certain nombre de spectateurs qui étaient là, voire de tabasser souvent, et d'abord en priorité apparemment, les organisateurs de ces festivals ou de ces concerts. Beaucoup ont été arrêtés, les identités ont été prises, parfois même les empreintes. Donc, c'est quand même un système national, hein, important, qui a été mis en place contre les antifascistes. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le cadre de la lutte contre cette autoroute, deux militants antifascistes ont été arrêtés. Ils sont toujours en détention, hein, Maxime et Alexei. C'était lors d'une action antifasciste du 28 juillet dernier. Et pourtant, malgré les protestations internationales et nationales, ils sont toujours en détention, et donc il y a un appel à se mobiliser, hein, devant les ambassades. Alors pour l'instant, effectivement, il faut que les organisations, les individus se collent à cet appel, mais il y a des journées d'action qui sont prévues au niveau international les 17 et 20 septembre prochains. Donc voilà, c'est à suivre, puisque eux, ils sont toujours en prison.
Voilà pour la partie internationale. On va diffuser maintenant le... Juste avant, je voulais juste quand même dire un mot sur une triste nouvelle sur Troy Davis. Donc Troy Davis, on avait parlé juste avant les vacances. C'est un homme de 41 ans, noir naturellement, puisque il est condamné à mort pour le meurtre d'un policier blanc, lui. Donc forcément, il a été condamné assez rapidement. Le procès a été assez rapide. Sauf que depuis, 7 des 9 témoins ont changé d'avis. Alors il y a eu un appel qui a été accepté par la Géorgie, cet état du sud-est des États-Unis, pour redonner un avis sur la condamnation à mort. Et tout le monde pensait, et nous aussi, qu'ils allaient dire non, il faut rejuger, parce qu'effectivement, 7 des 9 témoins qui changent d'avis, il y a peut-être eu un problème lors du procès, manipulation, etc., pression, etc. Et ben non. Le juge fédéral de Savannah, donc qui est c'est cette ville, a dit que ça posait pas de problème. Il pensait que les nouveaux éléments n'apportaient pas d'informations suffisantes pour prouver l'innocence de Troy Davis. Donc c'est une triste nouvelle. Donc il est à nouveau retourné dans le couloir de la mort en attendant l'exécution. Voilà. Donc maintenant, on parle de la friche. On se retrouve à la friche. Ça dure une vingtaine de minutes et après on fera
la. Tu aurais peut-être pu rappeler ce qu'était un petit peu la friche.
Je l'ai dit au début du Kenya Info. Voilà.
Puis je ne vais pas te répéter.
J'ai fait une petite introduction au reportage, tu verras. Donc voilà, et juste après, on fait l'actualité nationale et l'agenda. C'est parti. Voilà, donc là nous sommes devant le 84 avenue La Cassagne, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, en 2010, la friche RVI, donc anciennement une usine RVI et une usine Berliet, qui a ensuite été rachetée par le Grand Lyon. À partir de 2002, des artistes viennent s'installer, donc squattent ce lieu abandonné. Suite à des négociations, une convention signée d'ailleurs avec la ville de Lyon, je crois que c'est en 2004, dans le cadre des nouveaux territoires de l'art. Et depuis, donc, des centaines de personnes sont passées dans ce lieu à travers des studios de musique, des salles de répétition, des lieux pour fabriquer des œuvres d'art, aussi bien d'art plastique, enfin, toutes les formes possibles et inimaginables. Donc voilà, avec à travers une centaine d'ateliers, pas mal de collectifs, le collectif Nomade, Réservoir, Réseau, etc., etc. Et aussi, ce lieu est devenu une zone d'habitation, puisque parmi ces artistes, une partie habite sur place. On trouve aussi d'ailleurs un atelier vélo qui s'appelle l'atelier du Chat Perché. Grosso modo, on est face à 34 000 mètres carrés utilisés pour différentes activités, plus 10 000 mètres carrés de parking devant là où nous sommes, devant cette entrée, donc 84 avenue La Cassagne. Donc nous rentrons et nous allons interviewer les gens que nous allons croiser cet après-midi du mois d'août 2010. Bah, tu vas te présenter d'abord, peut-être?
Ben, Tony Viguetto.
Alors là, on est à la Friche, tu fais quoi ici, toi?
Je suis sculpteur-chorégraphe. Toi, t'as une sculpture derrière, mais autrement, on œuvre avec des sculptures chorégraphiques. C'est des grands volumes dans lesquels on met en mouvement avec nos corps.
Ça fait longtemps que t'es à la Friche?
Depuis le début, ouais. Ouais. J'ai ouvert la Friche avec quelques-uns.
Alors parle-nous peut-être un peu du début.
Ouais, le début, c'était plein de passions, de belles passions, en se disant voilà, on va essayer d'avoir un lieu tous pour faire ce qu'on a envie de faire au niveau artistique. Et puis petit à petit, c'est un lieu qui s'est transformé parce qu'il y a des gens qui sont rentrés. Et puis ça s'est politisé, ça s'est embarqué sur un grand navire de 35 000 mètres carrés. Au début, c'était le double, c'était 70.
Alors pourquoi il y a moins de surface aujourd'hui?
La SEPR, école de formation qui s'est montée.
Alors aujourd'hui, la Friche, ça en est où?
Ça en est qu'on a un ultimatum, 15 septembre, tout le monde dehors. Donc ça, c'est pas le... C'est le festival à la Lyonnaise, tout le monde dehors, quoi. Tu vois, ouais. Et puis après, ben, on va bien voir, voilà, on va bien voir au niveau du relogement, ce qui se passe, ce qui se fait. Il y a déjà des lieux de trouver, il y en a d'autres qui doivent être trouvés, pas tout le monde est content, ben, voilà, ça brasse plein de... Il y a plein de ressentis différents, d'envies différentes, déjà des prises de pouvoir sur des lieux qui existent, des futurs aussi, donc prise de pouvoir, ne serait-ce que pour avoir un bout d'atelier ou de territoire, il y en a qui entendent ça aussi en tant que territoire.
Parce que finalement, ça a arrangé un peu tout le monde qu'il y ait cette Friche, aussi bien finalement la ville qui y retrouvait un intérêt.
Bien sûr, autrement ils nous auraient pas laissé accès à ce site au début en 2002. Donc il y avait quelque chose à prendre pour eux, puis il y avait aussi toute l'histoire des nouveaux territoires de l'art, ouais, les NTN. Et ouais, ça a arrangé tout le monde, et puis on a bien vu que pendant ces 8 ans, on a eu plein de visites de politiques de toute l'Europe, même du... Ils nous ont fait venir des Japonais, plein d'ex-politicards ou des qui sont encore en action. Et puis voilà, donc je pense que ça a arrangé tout le monde, ouais, carrément. Nous aussi, bien sûr.
Et c'est quoi qui a changé alors?
Bah, ça a changé, c'est que l'immobilier, certainement aussi l'envie de nous contrôler plus, parce qu'on est un lieu incontrôlable, des artistes incontrôlables pour la plupart. Alors contrôle, ça veut dire quoi? Contrôler, voilà.
Donc j'imagine que la lutte s'est organisée.
Oui, mais il y a plein de luttes différentes. Il y a plein de luttes différentes, parce qu'il y a, comme je te disais, ça s'est politisé. Alors c'est pas facile de s'enlever de la politique dans notre monde d'aujourd'hui. Mais voilà, il y a des envies qui sont pas spécialement communes. Il y a des envies humaines aussi qui sont communes, mais qui sont gérées différemment par les uns et par les autres, parce qu'on est dans un lieu autogéré. Donc l'autogestion, ça veut dire grand bordel, tu vois. Ça veut dire ça veut dire se prendre en main, déjà commencer par soi-même et pas aller dans un groupe en se disant c'est autogéré, on va se faire et on va se faire porter par les autres. Comme autogestion, voilà, ça commence par soi. Donc il faut déjà commencer par là, quoi.
Alors, je m'appelle Céline, et puis je travaille à la Friche, du coup. Voilà, je suis employée dans un bureau.
Donc t'es salarié?
Voilà, je suis salarié.
C'est quoi, une association?
Alors c'est une asso, c'est un collectif d'artistes en fait, donc il y a plasticiens, musiciens, c'est pluridisciplinaire. Et voilà, donc je suis salariée depuis un petit moment. Avant, je suis arrivée à la Friche pour un stage. Et du coup, même en étant salariée dans un collectif, je m'intéresse quand même à tout ce qui se passe dans toute la Friche, pour tous les collectifs, et puis surtout en ce moment, avec ce qui se passe en ce moment, quoi.
Alors oui, parle-nous un peu de ce qui se passe en ce moment. Comment tu ressens les choses? Comment tu vois les choses?
Bah, c'est un peu dur, justement, en travaillant ici, de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai envie de m'investir énormément dans ce qui se passe, à la fois, je suis un peu... faut quand même que je continue à travailler, quoi, mine de rien. Et voilà, et... Mais bon, c'est vrai que c'est un peu... On sait pas trop où on va aller après, donc là, au bureau, on est un peu entre... Enfin, c'est un peu... On est un peu sur la corde raide, quoi. On sait pas si on doit déménager le bureau, commencer à ranger. Voilà. Moi, je suis dans un collectif qui fait partie d'un projet de relocalisation, le lieu X. Après, c'est le collectif qui fait partie du lieu X, hein. Donc, a priori, on devrait aller à la Martine. Mais... voilà, il n'y a rien de sûr, quoi. C'est en train de se faire petit à petit, donc les conditions de travail sont pas super... Enfin, c'est un peu bizarre, ouais. Voilà. Je sais pas où je serai dans un mois, quoi.
Et donc, l'expulsion, ça serait le 15, enfin, à partir du 15, la Friche est vraiment expulsable, c'est le dernier préavis qui a été donné. Comment tu vois la fin, toi? Est-ce que tu viendras te mettre devant pour dire au CRS « Salaud, vous nous piquez notre lieu » Comment, toi, personnellement, là, tu vois la fin?
Je sais pas s'il va y avoir des CRS. Ben, s'il y en a, oui, par soutien. Je pense que c'est pas la solution, de toute façon, qu'il y ait des CRS devant, quoi. Donc forcément, je trouverais ça idiot. Après, je pense qu'il y a plus besoin d'un dialogue que de quelque chose de violent. Après, si eux utilisent la violence et utilisent la force, ça viendra pas de nous. Donc à ce moment-là, on pourra se permettre de riposter de la même manière, ça c'est sûr. Mais je pense que la solution, elle est pas là, quoi. Mais étant donné qu'il n'y a pas de solution, puisqu'on n'a pas de dialogue, oui, moi, je pense que... Je serai là, ouais, pour soutenir.
Moi, c'est Thomas. Je suis à l'atelier vélo du Chat Perché, qui est à la Friche, qui s'est installé depuis 2 ans. Donc, dans cet atelier, on propose aux gens de venir réparer eux-mêmes leur vélo, se fabriquer un vélo avec toutes les carcasses de vélos qui traînent dans la rue et qu'on ramasse. Donc c'est un atelier qui fonctionne sur un mode d'autogestion et de participation libre. Voilà, c'est au choix. On peut donner un peu d'argent, on peut apporter d'autres choses, comme des carcasses de vélo, tout ce qu'on veut. Parallèlement, l'atelier vélo, on est aussi spécialisé dans la fabrication de plein de vélos bizarres. Alors, ça a commencé avec des remorques et maintenant on construit toutes sortes de vélos, baignoires, tout ce qui peut rouler en fait et tout ce qui n'a pas de moteur. C'est ça, notre credo en fait, c'est la lutte contre la bagnole, tout simplement. Parce que voilà, on en a marre de vivre dans ce monde du pétrole, quoi.
Toi, en plus, t'habites ici?
Ouais, moi je me suis installé à la Friche en arrivant un petit peu après avoir commencé à fréquenter l'atelier vélo. Voilà, parce qu'on m'a proposé de m'installer ici. C'était beaucoup plus pratique aussi pour gérer le lieu, parce que la Friche, c'est pas un lieu où on a une intendance, un responsable de la logistique. À la Friche, c'est un lieu d'autonomie, donc l'idée de m'installer ici, ça facilitait toutes mes activités autour de l'atelier vélo, quoi.
Alors juste, on va parler maintenant de la friche et de son avenir, puisque au 15 septembre, vous êtes censés tous partir. Tu vas nous dire, toi, comment se sont passés les derniers mois ici, puisque tu es resté tout l'été à la friche. Donc tu as vu un petit peu l'installation des plots en béton devant. Enfin, tu vas nous raconter un petit peu tout ça là.
Alors, on peut dire que l'été, il a commencé un peu avant la date officielle du 21 juin, parce qu'on a eu l'annonce le 8 juin d'une réunion à la mairie qui parlait de l'avenir de la friche. Alors, on a été prévenu le jour même, on s'est rendu à la mairie, et là, on a eu cette annonce sur la fin de la friche le 31 juillet, relogement de la friche dans l'usine Lamartine, située à 500 mètres de la friche, et 10 fois plus petite. Voilà, tout ça, on nous a annoncé ça au même moment. Donc ce qui s'est passé par la suite, il y a eu la mobilisation d'abord, l'organisation du festival qui s'est tenu du 15 juillet au 18 juillet, qui a été un super festoche, organisé en 2 semaines et demie, autogéré, où on a pu voir plein de concerts. On a eu 4000 personnes qui sont venues sur 4 jours. Donc ça... Voilà, la mairie ne pourra jamais admettre que c'était un truc chouette. Bon, nous, on sait qu'il y a plein de gens, on a plein de soutiens, on a plein de personnes qui ont adoré ce festival. Ensuite, dans l'enchaînement du festival, malgré la pression de la mairie, on a obtenu une prolongation, en fait. La date annoncée du 31 juillet a été repoussée au 15 septembre. Via un moratoire qui avait été demandé à la mairie. Ensuite, au mois d'août, tout le monde part en vacances. Faut bien que les élus aillent se bronzer un petit peu aussi pour être jolis à la rentrée. Et voilà. Et on a eu l'installation donc peu après le 20 août, là, donc il y a une dizaine de jours. Installation de blocs de béton, alors des trucs de 2 tonnes sur le parking qui donne accès à la friche. Du côté de l'avenue de la Cassagne, au 84 de l'avenue de la Cassagne, pendant toute la durée de la friche, qui a servi à la mairie pour dire que la friche c'était un truc crade, alors qu'en fait c'est une décharge sauvage que plein de gens viennent l'utiliser dans ce mode là. Donc là, l'installation des blocs de béton, l'argument qui a été donné, c'était par la mairie, tout de suite nous on leur demande, c'est pour empêcher l'installation sauvage des hordes de Roms qui se baladent dans toute la France, l'Europe et tout ça. Mais parallèlement, on discute avec les gens de la Sécu qui nous disent que eux, ils sont là pour garder le site jusqu'à la démolition le 15 septembre.
Parce qu'en plus, ils ont mis des agents de sécurité.
Oui, voilà, ils ont mis service Sécu privé 24/24. Voilà, c'est pas sans coup en plus. Là, moi, un ami me faisait remarquer que un tel service, c'est 4000 euros la semaine, avec les horaires de nuit et les horaires de dimanche.
Donc l'excuse, c'était les Roms, et dans les faits, c'est aussi un moyen de pression sur les habitants et ceux qui fréquentent la friche.
Ah bah oui, on a même carrément vu un des responsables du futur chantier de démolition. Enfin, on nous dit ça. Mais ce mec-là, on l'a vu rentrer dans la friche comme un graffeur rentre dans une usine. Tu sais, il est rentré à travers 2 grilles où tu pouvais passer un peu la tête. Bon, il était un peu bedonnant, alors c'était un peu chaud pour lui, mais le mec a fait ça, quoi. Pendant que les keufs étaient en train de contrôler les Roms sur le parking. Tu sais, sans scrupule, quoi. Devant tout le monde.
Et comment ça se vit au jour le jour, toi?
Depuis qu'on a eu l'installation des blocs de béton, on a subi quotidiennement des pressions, donc passage de la police municipale. Et parallèlement, nous on est dans le dialogue avec la mairie qui a toujours pas fermé la porte au relogement de l'ensemble de la friche. Donc on est dans un truc assez fou. Nous on leur demande clairement qu'est-ce qui se passe au 15 septembre. Pour l'instant on est sur cette date du 15 septembre, parce que si vous venez démolir et qu'on se fait expulser par le GIPN, à la limite si on est prévenu un peu avant, nous on s'adaptera, on va peut-être pas sacrifier tout le matériel qu'il y a ici à la friche, on peut peut-être en sauver une bonne partie avant, quoi. Et face à cette question, aucune réponse. Mais en même temps, on nous dit, on continue à discuter pour des relogements des activités de la friche. C'est quand même assez paradoxal. C'est parce que, voilà, sur le relogement dans l'usine Lamartine, le dossier, il s'est fait très vite, du coup. Il s'est fait très vite, pendant l'été, période pendant laquelle il y a plein de compagnies, plein de gens qui sont actifs à la friche, qui sont pas là, parce qu'ils sont en train de bosser dans les festoches, ils font des concerts et tout. Et le mieux, enfin, ce que je trouve le plus fabuleux, c'est que la mairie n'est toujours pas propriétaire. Il y aura encore des travaux d'aménagement à faire. Il y a déjà des pressions des gens du quartier, parce qu'en fait, c'est le même quartier, quoi. C'est des gens qui ont déjà vécu l'expérience de la friche avec plus ou moins de plaisir et qui se retrouvent... c'est leur pire... C'est les zombies qui se rapprochent encore plus... qui se rapprochent d'eux. Là, c'est les drogués, délinquants, tueurs, violeurs de la friche qui vont venir s'installer dans l'usine Lamartine. On voit que la ville de Lyon, elle a pas envie de soutenir un projet d'un lieu alternatif. Ça l'emmerde profondément. Elle comprend pas. Les gens de la ville, ils ont peur de rentrer dans la friche. Ils se disent que ils sont dans les bas-fonds. Je sais pas. Ils doivent avoir des images assez dingues. Hein.
Et l'avenir de l'atelier vélo, parce que l'atelier vélo, a priori, n'est pas concerné trop par Lamartine.
Ben moi, j'ai envie de continuer cette expérience de l'atelier vélo. Pour moi, c'est même un besoin clair sur Lyon et toute l'agglomération, parce que y a un manque terrible. En même temps, il y a des politiques d'incitation à faire du vélo. C'est plus d'incitation à faire du vélo, mais... Mais il y a des politiques d'incitation sur le vélo et en fait derrière, il n'y a pas grand chose qui est mis en place pour que les gens effectivement se lancent, fassent vraiment du vélo. Donc dans ce truc-là, on est en manque à Lyon d'ateliers où les gens peuvent venir réparer leur vélo. Alors il y a l'atelier du recycleur, nous c'est des amis, l'atelier du recycleur sur les pentes de la Croix-Rousse. Mais voilà, cette association qui s'est montée, qui est vachement soutenue par la ville. Hein, l'atelier du recycleur, il est complètement saturé. Ils ont 1500 adhérents et quand tu vas au recycleur, tu vois, il n'y a plus de place pour faire rentrer une personne des fois. Tu les vois, ils sont tous en train de réparer leur vélo les uns sur les autres. Nous on veut continuer. On a envie de continuer l'expérience de l'atelier vélo. On est prêt à discuter avec les villes de l'agglomération pour voir leur motivation pour créer une maison alternative du vélo, mais qui serait centrée sur le vélo, mais avec d'autres activités autour, pourquoi pas.
L'idée c'est quoi? C'est qu'on vous fournisse un lieu, puis après vous vous débrouillez pour le gérer, pour faire les activités, pour faire les permanences, pour aider les gens.
Ouais, nous sur une base comme ça, ouais, on serait bien sûr qu'on serait intéressé.
Le 15, en théorie, il y a l'expulsion. Tu penses qu'il va se passer quoi le 15?
Pour l'instant, le 15, moi, à mon avis, on peut tomber sur une prolongation. Ils nous donneront un mois, deux mois supplémentaires. Enfin, là maintenant, ils sont sur le mode où ils nous redonnent un petit peu plus. Mais c'est là que nous on est dans une stratégie, il faut être subtil, parce que si au fur et à mesure que les gens vont partir d'ici, le lieu il va finir par vraiment devenir fragile, quoi. Mais voilà, après si le lieu il doit mourir, faut savoir faire une belle mort, quoi. Faut le fêter jusqu'au bout. Donc j'espère que d'ici le 15 septembre on va se faire entendre et qu'on va essayer de recréer des événements.
Voilà pour cette première partie de reportage réalisé donc à la friche la semaine dernière. On a interviewé trois personnes, trois autres interviendront la semaine prochaine dans la deuxième partie du reportage. Juste pour préciser sur deux choses d'abord, sur l'expulsion, il y a un article aujourd'hui dans le Progrès, il y a un gars du PS qui est quand même très virulent et qui dit que le 15 il faut que tout le monde soit parti, ils tolèreront pas autre chose. sauf qu'ils arriveront jamais à reloger les 170 artistes qui collaborent ou qui négocient avec la mairie en ce moment à la Martine, puisque la Martine, c'est cette usine abandonnée qui n'est pas encore tout à fait prête à les accueillir. Donc voilà. Et puis deuxième chose, si vous n'êtes jamais allé à l'atelier vélo de la Friche et que vous avez besoin de faire réparer votre vélo, ils sont ouverts le lundi après-midi de 14h à 20h. 20h même un peu plus. Donc voilà, il faut aller à la Friche, 84 avenue La Cassagne. Vous avez une grande allée avec des gros blocs de béton, hein, comme l'a expliqué Thomas, là, les trucs anti-rom là, de la ville de Lyon. Et au bout, vous avez la grille et vous avez une sonnette qui sonne directement dans l'atelier vélo et on vient vous ouvrir, parce que la Friche, c'est un lieu dans lequel on rentre pas comme ça. Voilà, et justement, ça va faire la transition avec l'info suivante, enfin la brève suivante, parce que cette politique raciste, xénophobe de la France contre les gens du voyage à un moment, hein, fin juillet, et puis contre les Roms tout le reste du mois d'août, elle a eu des répercussions, alors à la Friche, on l'a vu, mais aussi dans le monde entier, où la France est aujourd'hui un pays fasciste et raciste. Alors nous on le savait déjà, mais voilà, ça a remis une couche. Ce qu'on notera, c'est qu'aujourd'hui, trois commissaires européens ont écrit un rapport et l'ont fait connaître, demandant aux autorités françaises des informations un peu plus détaillées sur ces fameuses expulsions et reconduites à la frontière. Faut quand même dire que depuis le début de l'année, 9000 Roms ont été expulsés ou reconduits à la frontière ou renvoyés dans leur pays d'origine par l'État raciste français. Donc effectivement, alors je vous rappelle que normalement, ils ont le droit de venir en France 3 mois, et qu'au bout de 3 mois, il faut montrer qu'on a des ressources financières et une sécurité sociale pour pouvoir prétendre à rester. Et ce que demande justement le rapport et ces trois commissaires, eh ben, c'est de prouver que pour chaque cas, eh ben, ils ont bien vérifié que ceux qu'ils ont expulsés, ils répondaient pas à ces critères-là, hein, que c'était pas juste parce qu'ils étaient Roms. C'est juste une demande. Je suis pas sûr qu'ils aient les moyens de pression sur le gouvernement français, parce qu'à mon avis, le gouvernement français a pas ces infos-là, hein, parce que les expulsions, les reconduites à la frontière, ont pas l'air de s'être fait dans les règles. Je sais pas pourquoi. Hein. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. T'as plus rien à dire ?
Aussi, j'ai toujours à dire si tu veux, mais je te laissais la parole.
Bon, alors juste avant de te donner la parole, peut-être sur Adopi, juste reparler sur autre chose, sur du chômage, puisque aujourd'hui encore, ce matin, quand j'ai écouté la radio, on nous a annoncé à travers le discours de Christine Lagarde que il y avait une nouvelle embellie. C'est la deuxième fois de suite, le chômage est presque réglé.
Mais presque. Hein.
Mais presque. Alors, finalement, quand on regarde les chiffres, c'est totalement faux. Hein. C'est ce qu'on appelle la propagande ou un mensonge, ou vous appelez ça comme vous voulez. D'abord, le nombre total d'inscrits au chômage n'a jamais été aussi élevé ce mois que sur ces 20 dernières années. 4 574 000 inscrits, plus 300 000 chômeurs de plus de 58 ans qui sont dispensés de recherche d'emploi, plus de 117 000 chômeurs dans les départements d'outre-mer. Donc voilà, en 2 ans, le nombre de chômeurs a augmenté d'1 150 000. Donc l'embellie, elle n'y est pas. Ensuite, 505 000 hommes et femmes se sont inscrits au chômage au mois de juillet. 505 000 en un mois, c'est énorme. Alors vous allez me dire pourquoi eux ils voient une embellie. Eh bien ils voient une embellie parce qu'il y a 505 000 personnes qui s'inscrivent, mais il y en a 495 000 qui partent du Pôle emploi. Donc finalement il y a le chiffre, il est positif, mais de 10 000. Donc il y aurait d'après eux 10 000 chômeurs en plus. Sauf que quand on a l'analyse un peu plus sérieuse des chiffres, c'est pas tout à fait ça. D'abord, il y a 104 000 de ces personnes qui sont parties du Pôle emploi qui déclarent avoir trouvé un emploi. Pour 100 000, il y a des doutes. Grosso modo, le ministère admet, il y a a priori sur ceux qui sont partis, 40 000 qui auraient trouvé un emploi. Les autres, les 60%, ils sont partis sans emploi. C'est-à-dire qu'ils sont sortis des chiffres, mais ils sont toujours chômeurs. Et c'est là où on a ce mensonge en permanence. C'est qu'en fait, la majorité des gens qui sortent des chiffres du chômage, c'est pas parce qu'ils retrouvent un emploi, c'est parce qu'ils tombent dans des dispositifs comme le RMI ou le RSA, le remplaçant du RMI, et qui sortent des chiffres du chômage alors qu'ils sont toujours chômeurs. Sans compter ceux qui, sachant qu'ils n'ont plus de droits, ne s'inscrivent même plus au Pôle emploi. Donc en fait, la situation, elle est bien pire que ce qu'annonce Christine Lagarde. Et puis, dernier chiffre à préciser, à l'heure d'aujourd'hui, 60% des embauches sont des CDD. Donc c'est l'ultra-précarité qui se développe. Donc il ne faut pas se réjouir du tout des chiffres qu'on a actuellement sur le chômage.
Oui, et puis au Pôle emploi, ça va toujours de mieux en mieux. Hein. On en a beaucoup parlé la saison dernière. Maintenant, vous savez... Alors, évidemment, si vous êtes en CDI ou si vous êtes, comme notre ami Laurent, dans l'éducation nationale, vous n'avez aucune idée de quoi je vais vous parler. Mais le Pôle emploi, maintenant, vous êtes convoqué par téléphone. Oui, oui, c'est donc la grande nouveauté ces derniers mois. J'ai moi-même pu tester la splendeur de cette initiative. Vous recevez donc votre convocation par écrit, comme d'habitude, où on vous signifie qu'à telle heure, votre conseiller Pôle emploi vous appellera. Alors, si vous avez eu la bonne idée, comme moi, de donner votre portable ce jour-là, vous espérez que le réseau marche bien et qu'on va pouvoir vous appeler. Et puis, vous espérez aussi que votre conseiller ne soit pas en retard, puisque peut-être que vous avez vos enfants à aller chercher à l'école, par exemple, hein, là, c'est la rentrée, jusqu'il est, vous aviez à 10h45 le rendez-vous par téléphone, et puis approche la sortie de midi, vous avez votre enfant qui vous attend, alors deux choix, vous laissez votre gamin sur le trottoir en se disant on verra bien, en attendant fébrilement à côté du téléphone, où vous allez chercher votre gosse qui risque de vous arriver, ou alors bêtement vous êtes en train de faire pipi quand le téléphone y sonne, et au lieu de vous vautrer dans votre couloir,
vous
laissez sonner, et donc qu'est-ce qui se passe, vous êtes radié, tout simplement, puisque le conseiller n'a certainement pas le temps de vérifier par deux fois.
Pourquoi vous n'avez pas pu répondre au téléphone ?
Pas. Exactement. Donc, c'est la nouveauté pour sortir les gens aujourd'hui des chiffres du chômage, comme tu le disais. C'est la radiation par l'absence absolue et non-réponse par téléphone. Alors, d'autant plus que les conseillers, je vois pas bien, leur métier, ils se perdent, hein, ils se dégradent complètement dans cette action, puisque au lieu d'avoir quelqu'un en face de vous qui peut répondre à vos attentes, qui peut être passé un coup de fil, en tout cas être réactif, vous l'avez à distance, vous voyez pas son regard, ce qu'il est en train de faire en même temps. Et puis il est souvent très en retard, ce qui veut dire qu'il accélère, ça va beaucoup plus vite que quand vous l'avez en face de vous, et puis vous n'êtes pas sûr que derrière il entreprenne les démarches que il vous a promis de faire, hein, sans mettre en question du tout le travail de ses conseillers, mais c'est vrai qu'ils sont débordés, donc en plus de ça, quand ils sont en retard, bah, ils continuent après on peut penser leur heure de fin de journée de travail, à essayer de vous appeler et de vous joindre à votre domicile ou sur votre portable. Donc c'est une nouvelle situation, ma foi, fort pratique pour, encore une fois, virer les chômeurs du Pôle emploi.
Voilà, puis on vous rappelle quand même que ce qui, aujourd'hui, crée le plus de chômage, c'est l'État, avec le non-renouvellement des fonctionnaires, puisque vous savez que, par exemple, il y a 16 000 profs en moins cette année, donc ça aurait pu faire 16 000 chômeurs en moins s'ils avaient été embauchés comme profs, et ils ne le seront pas, et c'est d'ailleurs pour ça que lundi il y a une grève dans l'éducation nationale. Donc voilà, si votre enfant ne peut pas être scolarisé lundi parce que son ou ses profs font grève, c'est entre autres pour lutter contre toutes ces réformes, la suppression de l'année de formation des nouveaux profs par exemple, la suppression d'une grande partie des profs, hein, puisque 16 000 par an c'est quand même beaucoup, ça va vite, hein. Donc voilà, il y a une grève lundi.
Oui, moi je voulais juste reparler de Bell. Vous savez, c'est ce groupe.
C'est du fromage.
Voilà, vous savez, c'est ce groupe qui produit la vache qui rit. Vache qui rit qui a été attaquée cet été par les producteurs de lait, qui avaient donc apposé avec délicatesse des petits autocollants sur les boîtes de vache qui rit dans les supermarchés.
Sur d'autres aussi.
Sur d'autres, hein, Lactalis était aussi visé à travers ces produits. Mais c'est vrai que la vache qui rit, c'est un produit qu'on connaît tous, sans savoir qu'il appartient au groupe Bell, qui est un groupe qui a un bel esprit familial. Eh ben, il faut savoir que pour le fabricant de la vache qui rit, tout va bien, puisque le bénéfice net a fortement augmenté au premier semestre 2010 par rapport à 2009. Le groupe a effectivement enregistré 89 millions d'euros de bénéfices net contre 29 millions l'an passé.
Donc ils pouvaient largement payer un peu plus le lait aux producteurs qui, voilà, eux, faisaient pas de bénéfices.
Puisque le chiffre d'affaires est lui aussi dans une tendance extrêmement positive, comme je l'ai donc appris sur un site économique. Il progresse de plus de 8%, hein, à 1,17 milliard d'euros, le chiffre d'affaires de ce groupe Bell, qui était donc très justement attaqué par les producteurs laitiers qui estiment qu'ils sont payés à coups de lance-pierre, et ils ont bien raison. Et puis pour la petite histoire, sachez que le groupe Bell, dans tous les... On vous parle souvent des entreprises ici, a entrepris une belle initiative pour l'art, n'est-ce pas, puisqu'ils ont ouvert en juin 2010 l'exposition d'art contemporain Rewing, n'est-ce pas, à la Maison de la Vache qui Rit. Et tout ça, c'est pour inaugurer quoi? Les activités du laboratoire artistique du groupe Belle, ça s'appelle La Belle, n'est-ce pas? Donc voilà, évidemment, c'est géré par un des membres de la famille Belle, Laurent Fievet, qui est lui-même plasticien. Donc une nouvelle initiative de nos groupes agroalimentaires en France, qui nous sortent soit une belle fondation, un institut, et qui souvent, depuis quelques années, se mettent à faire des choses dans l'art, et en particulier dans l'art contemporain, ça sonne bien. Et puis je voulais vous parler de la mort... de quelqu'un de la bande dessinée.
Mais alors, pas connu du tout.
Il s'appelle Harvey Pekar.
C'est une sorte de mythe.
C'est un mythe. Alors, je suis sûr quand même, vous êtes nombreux à connaître et avoir certainement lu ces BD. Hein. C'est il est nommé comme étant l'inventeur du roman graphique.
En tout cas, l'inventeur de l'autobiographie.
Exactement.
En BD, puisque c'est quelqu'un qui... Alors, il n'est pas dessinateur, hein, lui, il est juste scénariste. Et ça a plus... Il raconte sa vie, alors ça a commencé dans les années 70. Il était un peu beauf, hein, quand même, au départ. Enfin, c'est une vie un peu de plouc américain. Mais pas que, parce qu'il s'intéresse à plein de choses. Il est fan de jazz, par exemple. Et donc, il a demandé à plein de dessinateurs de dessiner ses scénarios qu'il écrit. Et il racontait sa vie, ce qu'il avait fait dans la journée, etc. Et ça a créé une BD qui a continué jusqu'à il y a quelques semaines. Hein. Un truc énorme. Hein. C'est a sorti pendant 30 ans sans s'arrêter aux États-Unis. Et il y a plein de BD, plein d'auteurs de BD qui ont participé à cette biographie permanente. Dont... Certainement le plus gros auteur américain, le plus connu.
Robert.
Crumb.
Exactement.
Vient de sortir une BD chez Cornelius, si je me trompe pas, qui est une réédition de tout ce qu'il a écrit justement pour Harvey Pekar.
Ça s'appelle Harve & Bob.
Voilà, et ça vient de sortir. Et on peut noter qu'il y a peu de choses hein, de sorties en France sur Harvey Pekar. Il y a un début d'anthologie qui est sorti l'année dernière. Ça sera en 3 tomes aux éditions Ça et Là. Et puis, je crois qu'il y a un ou deux petits fascicules aussi disponibles. C'est très intéressant de lire ça. Et c'est en noir et blanc. C'est vraiment de la BD indépendante américaine.
Donc voilà, ça s'appelle American Splendor, hein, si vous cherchez voilà. À essayer
American
de le lire.
Il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de cap, voilà. Mais par contre, c'est vraiment quand même bien. Et puis, il est mort cet été, donc il est mort au mois d'août.
Voilà, c'est pour ça, on vous invite donc à lire un petit peu.
Nous, on l'a découvert par hasard, parce qu'on n'avait pas du tout entendu parler de sa mort.
Et comme c'est quelqu'un qu'on aime bien, on aime un petit peu lire effectivement cette vie farfelue. Parfois, vous pourrez le traiter de sexiste, d'abruti,
pas fini.
C'est très très énervant, mais c'est aussi accompagné d'un dessin noir et blanc qui est souvent aussi tout aussi croustillant que les textes. Tout ça s'accompagne assez bien finalement.
Ouais, et puis la partie sur les années 70, c'est vraiment très bien, parce que là, il va rencontrer Crumb. Donc c'est dessiné, ça existe. C'est l'époque où ils fument tous des joints partout, où c'est l'amour libre. Enfin, ça décrit aussi une situation historique dans le milieu hippie, par exemple. Enfin, il y a vraiment des trucs croustillants et très intéressants.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui était quand même âgé aussi, et ça nous parle aussi de cette Amérique d'après-guerre, du désenchantement et de la réalité de ce que c'était les États-Unis tout au long des années 60, 70 et 80. Quoi.
Voilà, bah, je crois qu'on a quasi fini. On va parler peu de la mobilisation, des mobilisations, car la rentrée est chaude.
Ouais.
Alors, ça commence avec un truc un peu ambigu, mais qu'on va soutenir quand même, qui a lieu donc samedi. Donc, c'est une manifestation il y a des manifs dans toute la France contre justement la politique raciste et xénophobe de l'État français contre les Roms, qui a été très très forte quand même ce mois d'août, alors qu'on était à la plage en train de se faire bronzer. Et donc, il y a une manif à Lyon. Non, mais on n'était pas à la plage.
Il
faut dire qu'on était à la plage.
Ils vont nous croire après si tu leur dis ça.
Ils savent pas, c'est pas la télé, ils ne voient pas qu'on n'est pas bronzé. La manifestation lyonnaise, elle démarrera à 14h de Place Bellecour samedi.
Ouais.
À l'appel de millions de personnes, de millions de groupes, d'associations, de syndicats, de plein de choses. Et avant tout du PC qui a lancé le premier truc. Et c'est ce qui a fait réagir pas mal de gens négativement, parce que le track du PC chiantissime et
alors c'est pas que ça en
Deval.
Fait c'est donc lancer l'appel de non à la politique du pilori où effectivement il y a toute une liste de signataires que vous pouvez retrouver soit sur leur site internet soit sur le site de rebellion.info mais la critique elle vient aussi que cette journée est lancée le 4 septembre pour le 140e anniversaire, 140 non, c'est pas ça, 140e, il me semble, de la République, de la Troisième République. Il y a des grosses critiques qui sont faites. C'est une République qui s'est quand même faite dans le sang. Donc la célébrer, c'est toujours problématique. Vous avez un paquet d'infos un petit peu sur ça qui ont circulé. Il y a l'organisation l'OCL qui a fait un petit peu des papiers là-dessus. Vous avez le Jura Libertaire qui a aussi fait un petit peu des choses. Donc il y a de la réaction un petit peu quand même sur le milieu, en particulier libertaire. Mais c'est vrai que le milieu militant réagit un petit peu sur la célébration un peu particulière. Voilà, c'est pas la meilleure qu'on puisse faire. Mais c'est vrai que dans la situation, comme le disent certains, il n'y a rien d'autre. Donc, on fait aussi avec les appels qui sont lancés. Voilà. Venez avec vos tracts.
Et vous pouvez avoir des tracts anti-républicains en disant que la République, elle a quand même beaucoup de sang sur les mains et qu'on n'est pas obligé de la soutenir et de la fêter, puisque c'est quand même plutôt... c'est pas toujours très positif comme système. Bon, enfin, pour l'instant, on n'a que celui-là, hein, chez nous. Donc, voilà. Ça, c'est la première manif.
Et après, il y en a d'autres. Il y a une grosse manif qui arrive.
Attends, mais je peux parler d'abord de la mobilisation des profs. Ouais. Donc, lundi, mobilisation du corps enseignant du second degré, en fait. Donc, c'est du second degré. C'est sur aujourd'hui, vous avez entendu, il y a la réforme de la classe de seconde, une réforme catastrophique, faite dans la précipitation. Et donc, contre cette réforme, contre les différentes réformes dans le second degré, il y a une mobilisation des enseignants, il y a une manif à Lyon qui partira de la place Guichard à 14h lundi. Voilà pour les collègues profs dans le second degré. Et puis, la grosse journée de mobilisation de la semaine pour tout le monde, en tout cas, non pas tout le monde, tous ceux qui sont contre les projets de réforme sur les retraites, ceux qui sont pour, forcément, vous manifestez pas, mais ceux qui sont contre... qui doit faire 105% des éditeurs de Radio Canut. Il y a donc une journée de grève interprofessionnelle mardi à l'appel de tous les syndicats, même FO qui s'est mis dans le truc, et une manifestation à Lyon.
À 10h30, départ devant la manufacture des tabacs, comme d'habitude. C'est évidemment important de se mettre en marche sur cette manif, même si on a déjà entendu M. Sarkozy, au mois de juillet, nous expliquer que, quel que soit le nombre que nous puissions être lors de cette première journée de manifestation de la rentrée, il s'en moquait. Comme d'habitude, il continue sa propagande contre les grévistes, contre les syndicats. Enfin, on a globalement l'impression qu'il attaque les travailleurs un petit peu tous les jours quand même, donc c'est forcément une manifestation importante.
Et comme Éric Woerth est affaibli en ce moment, puisqu'aujourd'hui il a avoué avoir menti sur la Légion d'honneur, voilà, donc on sent qu'il y a un moyen quand même de faire pression et de faire reculer le gouvernement là-dessus, donc c'est l'occasion ou jamais de le montrer.
Et puis mercredi 8 septembre, cette fois pas de manifestation, mais un rendez-vous pour s'informer, rencontrer. Vous pourrez à 19h à la librairie de la Griffe, qui se situe dans le 7e, 5 rue Sébastien Griffe. Vous pourrez rencontrer des militants belges qui viendront vous présenter le camp No Border, qui se tiendra donc à Bruxelles du 27 septembre au 3 octobre prochain. Donc voilà, ce sera un bon moyen de savoir un petit peu qu'est-ce qui va s'y passer, comment ça s'y passe, et surtout comment ça s'organise.
Ben voilà.
Ben c'est tout.
Premier Canu Info de la saison
terminé
pour le jeudi. On se quitte. On vous rappelle que vous pouvez réécouter le Canu Info sur le site de Radio Canu, radiocanu.org, et sur le blog du Canu Info du jeudi. Il y a l'adresse aussi dans la rubrique Canu Info du site de Radio Canu. Sinon, vous allez sur Arte Radio et vous tapez Radio Canu sur Arte Radio et vous tombez sur le Canu Info. Enfin voilà. Etc. Bye bye. Rendez-vous la semaine prochaine. Le Canu Info, c'est tous les jours de la semaine. 19h-20h et sera diffusé régulièrement le matin, le lendemain matin. Bye bye.
Ciao.
Difficile à voir. Toujours en mouvement est l'avenir.
Le Canu Info de Radio Canu.